Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Hubert Prolongeau. Nous sommes très contents de vous recevoir pour parler un petit peu de phénomènes étranges, inexpliqués pour certains, pas pour tous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Hubert Prolongeau, vous êtes journaliste, journaliste d'investigation. Donc vous avez déjà publié plusieurs ouvrages d'enquête de terrain, notamment « Sans domicile fixe » chez Hachette, c'était en 1983, « Travailler à en mourir » chez Flammarion en 2009. Vous avez aussi une activité de scénariste en bande dessinée, j'ai appris ça il n'y a pas très très longtemps. La jeunesse de Staline aux éditions Les Arènes. Vous avez également écrit un roman historique sur Napoléon Bonaparte. Et vous avez aussi publié un livre qui s'appelle Bordeaux au-delà des Chartrons aux éditions Nevicata, dont vous connaissez très très bien la ville. Vous êtes originaire.
Oui,
voilà, exactement. Et vous avez aussi travaillé pour le Nouvel Observateur et pour Le Monde. Et aujourd'hui, vous collaborez à Télérama et à France Culture. Alors, vous venez ce soir nous présenter un livre. Donc, et vous y croyez, point d'interrogation, qui est important. Comme vous le savez le faire, ce livre, c'est une enquête de terrain. Donc, une série de rencontres et d'entretiens que vous avez menés donc, avec des personnes qui exercent une ou plusieurs pratiques dites alternatives, occultes. On va essayer aussi un petit peu de définir les termes qui peuvent aller donc, du magnétisme, guérisseur, magnétiseur, à la divination, astrologue, voyant, en passant aussi par l'exorcisme, le channeling. Donc autant de pratiques qui sont effectivement entre guillemets à la mode, en tout cas moi en tant que libraire du rayon religion spiritualité, je vois effectivement arriver des ouvrages sur des thématiques qui ne cessent de d'évoluer, de se faire écho les unes avec les autres. Et ce qui était extrêmement intéressant avec votre ouvrage, c'est que justement il pose une double question, une question un peu voilà, macrocosmique sur justement existe-t-il un monde invisible ou pas. Certaines personnes ont-elles un don ou ont-elles eu accès à ce monde auquel d'autres n'ont pas accès, pas encore. C'est très très intéressant et souvent touchant d'ailleurs lorsque effectivement vous allez discuter avec des personnes qui parfois ont des dons de guérisseurs, de rebouteux, de magnétiseurs, mais qui ne savent pas trop pourquoi, d'où ça vient. Et voilà. Et le deuxième intérêt, c'est effectivement justement de rentrer un petit peu dans la vie de ces personnes. Donc c'est très sobre, parce que les entretiens, c'est plus des rencontres que des entretiens, ouais, en fait. Mais voilà, à chaque fois, vous arrivez quand même à essayer de comprendre si justement cette vocation est une vocation, si c'est lié à un événement un peu traumatique de l'enfance, enfin bon voilà. Donc autant de questions que vous soulevez dans votre livre et qui sont tout à fait intéressantes. Alors justement, des questions, moi je vais vous en poser quelques-unes. Vous allez pouvoir en poser aussi, puisqu'on va dialoguer à peu près 45 minutes et vous aurez 15-20 minutes pour poser des questions. Et ensuite, il y aura 15-20 minutes pour les personnes qui souhaitent aller voir Hubert Prolongeau pour éventuellement une dédicace. Alors, ma toute première question, toute simple, je crois que c'est la première fois que, bon, vous êtes fan de science-fiction, mais c'est quand même, ça n'a rien à voir, c'est la première fois que vous vous frottez à ces thématiques-là, d'où est-ce que cette envie est venue?
Alors en fait, au départ, c'est une commande de Robert Laffont qui voulait faire un livre sur la sorcellerie, donc j'ai commencé à gratter. Et puis en fait, en grattant, je me suis aperçu que la sorcellerie était quand même un phénomène très spécifique. D'abord, il y a des livres majeurs sur le sujet, dont celui de Jeanne Favre-Saada, qui rendent difficile le fait de lui emboîter le pas. Et puis, c'était quelque chose de pas très actuel, de très localisé. Et en fait, je me suis aperçu que des tas de gens autour de moi, quand j'en parlais, croyaient à des choses assez vagues, assez peu contraignantes, et que la science n'expliquait pas. Et en fait, on a réorienté le livre vers ça, vers un espèce d'exposé de pratiques. Alors, on ne savait pas très bien comment l'appeler. Au départ, le premier sous-titre, c'était thérapie occulte, c'était plus juste. Donc, en fait, on a eu deux critères, que ça soit quelque chose dans lequel il y ait une volonté de soin ou d'amélioration, et que la science n'explique pas les résultats. Donc, ça part effectivement des magnétiseurs, dont plus personne ne nie l'efficacité, mais dont on ne sait pas encore très bien comment ça marche, jusqu'à des phénomènes comme l'exorcisme, comme le spiritisme, comme qui là relèvent de phénomènes beaucoup plus contestables. Et l'idée était d'aller rencontrer les gens qui le pratiquaient, ceux qui le, pas le subissaient, mais qui en étaient clients, et sans les juger, juste de les faire parler de ce que ça représentait pour eux et d'essayer, dans la plupart des cas, de vivre avec eux ce qu'ils vivaient. Donc, je voulais vraiment n'avoir aucun... Ce n'est pas un livre sur les charlatans qui sont légions dans ce secteur. Il y a eu des tas d'enquêtes de fait dessus. Je suis allé me balader un peu à des salons de la voyance où là, effectivement, on sent quand même que ça grouille. Moi, ce n'était pas ces gens-là que je voulais. Donc, un de mes critères était que je ne rencontre pas des gens qui font des fortunes là-dessus, que ça soit de la simple guérison ou du développement personnel. Donc de rencontrer des gens, il y en a quelques-uns qui sont thérapeutes et qui ont des cabinets, mais qui gagnent très normalement leur vie. Et l'idée était aussi, dans la mesure du possible, de vivre avec eux ce qu'ils faisaient.
Oui, et c'est intéressant parce qu'effectivement, vous évoquez le sujet du charlatanisme, parce qu'effectivement, quand on pense à ce monde, on a tout de suite une idée en tête comme ça, et vous faites quand même une grande différence entre justement les magnétiseurs, les guérisseurs que vous allez voir. Donc ça, c'est surtout la première partie du livre. Et à la fin, vous allez plutôt voir des voyants et des astrologues. Et vous, en fait, vous nous faites comprendre que les charlatans se situent plus du côté de la voyance, de la divination, que des guérisseurs qui sont des personnes qui ont un don et qui parfois sont encombrées par ce don.
C'est ça. Ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi, cette notion de don. C'est-à-dire que les guérisseurs eux-mêmes sont les premières victimes de ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas. Alors, quand c'est juste un don... enlever le feu, ou ça se gère. Mais quand c'est des gens qui ont des dons plus divinatoires, donc qui entendent des voix, qui se sentent envahis par ce qu'ils appellent des esprits, c'est beaucoup plus compliqué à vivre. Et arriver à vivre avec ce don sans se croire fou n'est pas toujours... il faut arriver à le domestiquer d'abord, c'est-à-dire à gérer ce qu'ils entendent. Et après, il faut arriver à considérer que... Au moins pour eux, c'est quelque chose de normal. En tout cas, c'est une porte ouverte vers autre chose. Que ce qui m'a frappé assez vite, c'est de voir qu'à travers des pratiques extrêmement différentes, le magnétiseur, le chaman, l'exorciste, se manifeste une vision du monde qui, pour chacun, a beaucoup de points en commun. C'est-à-dire que, on est tous connectés les uns aux autres. Il existe un univers invisible. Il existe des esprits plus ou moins bienveillants. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve chez tous, même à travers des pratiques très, très, très différentes. Parce que beaucoup de magnétiseurs, la majorité même, ne comprennent pas leurs dons, mais pensent qu'ils se rattachent à autre chose. Donc, à une vision du monde beaucoup plus globale. Ce n'est pas des religions... parce qu'on ne croit pas en une divinité, on croit souvent en des esprits, en un monde invisible, mais qui reste très flou. Et surtout, la différence majeure avec les religions, c'est que c'est quand même assez peu contraignant. C'est des endroits où on vient, on apporte ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut, et il n'y a pas de règles morales, de règles de vie, donc tout ce qui rend les religions parfois pesantes au quotidien. Donc ça correspond aussi à l'époque. C'est un peu, on prend ce qui vous plaît, on laisse le reste, et beaucoup composent une espèce de Macédoine de diverses pratiques, diverses dans lesquelles ils choisissent ce qui les intéresse et ils laissent de côté ce qui leur semble plus difficile.
Alors justement, est-ce que vous avez été amené à rencontrer des guérisseurs ou des magnétiseurs, parce qu'on va rester un petit peu sur ces pratiques-là, qui ont une religion, qui sont catholiques, ou est-ce qu'il y a toujours vraiment une opposition ?
Non, non. Il n'y a pas d'opposition.
Catholique ou autre.
Parce que rien ne s'oppose vraiment. Il y a la croyance dans un univers invisible que chacun modèle comme il veut. Les guérisseurs, c'est d'autant plus vrai que eux, c'est le don. Donc, ils n'ont pas de rapport direct avec l'au-delà. Ils ont un don qu'ils ne comprennent pas, qu'ils utilisent, qu'ils exploitent pour certains, mais pas tant que ça, et qui reste pour eux assez mystérieux. Ce don, souvent, mais je suppose que certains d'entre vous l'ont expérimenté, consiste à... Alors, ils ne prétendent pas tout guérir, mais par exemple, des choses comme le zona, des choses comme les brûlures, comme sont apaisées très facilement par les guérisseurs, le mal de dos, et sans que le guérisseur sache, il a quelque chose... Alors, des théoriciens de la chose expliquent que ce sont des pouvoirs énergétiques, que ce sont... Mais eux-mêmes ne savent pas. On constate quand même que de plus en plus à l'hôpital, on fait appel à des gens comme ça. J'ai une cousine qui malheureusement en est morte depuis, qui a eu deux cancers successifs dans l'année. Et elle a vu deux oncologues. Et le premier lui a donné une liste de magnétiseurs pour qu'elle y aille et pour essayer d'apaiser les douleurs liées à la chimiothérapie. Et l'autre a prétendu ne même pas savoir que ça existait. Donc il y a encore un rapport à ça qui est très idéologique, mais ça rentre à l'hôpital de plus en plus. L'hypnose, par exemple, qui est aussi une pratique dont on ne sait pas très bien. On sait que ça agit sur certaines parties du cerveau, mais on ne sait pas très bien comment. Et de plus en plus utilisée pour les anesthésies. Mais aucun ni hypnotiseur ni guérisseur ne prétend guérir un cancer. Mais ils accompagnent. Et la médecine officielle reconnaît de plus en plus leur apport.
Oui, je rebondis sur une phrase de Brigitte Grimm Laforest, qui est une guérisseuse que vous avez rencontrée.
Et présidente du syndicat, parce qu'il y a un syndicat des magnétiseurs et guérisseurs, et elle en est présidente.
Qui effectivement dit à un moment, c'est aux scientifiques de nous dire quel est notre don, en fait. Nous guérissons, même si nous ne comprenons pas pourquoi, mais j'aimerais qu'on m'explique ce que je fais.
Et effectivement, pour l'instant, la science ne l'explique pas. J'avais rencontré quelqu'un qui avait un gros problème avec son don, qui au départ avait un don de sourcier. Donc depuis tout petit, il repérait l'eau, avec la baguette, et puis elle se lève. Effectivement, je l'ai vu faire près d'un puits, près d'un CCAC, c'est assez spectaculaire. Et puis voilà, donc il utilisait ce don, c'est-à-dire que quand il vivait à la campagne, quand un de ses voisins avait besoin de trouver une source, il allait l'aider à la trouver. Et puis un jour, il a découvert qu'il pouvait aussi enlever le feu et guérir des choses plus sérieuses. Et là, il a énormément hésité en se disant, voilà, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois laisser parler ce don qui l'inquiétait un peu ? Est-ce que, du coup, il est condamné à une espèce de dévouement permanent ? Est-ce que il a beaucoup hésité ? Il a fini par le faire, mais discrètement, et puis voilà, ça s'est su. Mais il était très, très embarrassé par ce don qu'il voyait beaucoup plus comme une malédiction que comme une bénédiction. Il y avait un très beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce qu'il n'a eu aucun succès, qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelait... un titre compliqué, par d'autres que moi guéri, ou enfin qui racontait comme ça les atermoiements d'un guérisseur qui se sentait coincé entre l'obligation d'utiliser son don pour guérir les autres et les contraintes énormes que ça entraînait.
Alors justement, une question là plus au niveau de la méthodologie, comment avez-vous rencontré ces personnes ? Est-ce que vous avez pris des rendez-vous ? C'était par rapport à des amis ? Parce que parfois, c'est vraiment des amis d'amis.
Oui, mais globalement...
Et question subsidiaire, quelles ont été les réactions en général, plutôt bienveillantes ou au contraire, est-ce que vous avez connu aussi un petit peu de méfiance ?
Alors de manière étonnante, je pensais que ça serait très compliqué d'arriver à les rencontrer, qu'ils ne voudraient pas parler. Je me suis aperçu, rien qu'en en parlant autour de moi, que beaucoup de gens, mais parfois des gens très proches, connaissaient, voire étaient de manière partielle dans ce genre de pratique. Et quand j'ai vu les gens, en fait, à partir du moment où ils ont compris que je n'étais pas là ni pour me moquer d'eux, ni pour les dénoncer, ils ont été extrêmement ouverts. Et j'ai été invité partout, et par des gens très prosélytes, très désireux de faire partager ce qui leur arrivait, très convaincus pour la plupart. Donc ça n'a pas du tout été l'hostilité que je pensais rencontrer au départ. Et j'ai arrêté ce livre, en fait, de façon un peu arbitraire, quand j'ai eu suffisamment de cas, de rencontres, pour pouvoir l'écrire. Mais j'aurais pu continuer encore, parce qu'à chaque fois qu'on ouvrait une porte, on s'apercevait qu'il y en avait 10 sur les côtés et que ça aurait pu être sans fin. J'ai eu un seul refus d'une dénommée Kat, qui est sorcière à Paris. Mais sorcière, elle a une plaque sur son sorcière. Et donc, elle envoûte, elle désenvoûte. Et elle a refusé de me rencontrer. En fait, je n'ai même pas eu elle directement. J'ai eu un de ses assistants qui m'a aboyé au téléphone et qui tombait dans cette tautologie m'expliquant que Kat ne rencontrait que les gens qu'elle connaissait déjà, ce qui doit quand même limiter sa vie sociale de façon inquiétante, mais je n'ai pas pu la rencontrer.
Hey. Alors, combien de temps a duré cette enquête
Elle s'est étalée sur 2 ans, mais les tarifs de l'édition étant ce qu'ils ont, je ne pouvais pas vivre que de ça, donc j'ai fait pas mal de journalisme à côté.
Alors, c'est intéressant pour le libraire que je suis, puisque vous citez aussi des livres, il y a toute une bibliographie, il y a des auteurs qui reviennent souvent, comme Deepak Chopra, Jita Malash, Dialogue avec l'ange. Est-ce que vous avez lu ? Est-ce que vous avez documenté un petit peu ?
J'en ai lu quelques-uns, mais plus par curiosité que pour vraiment nourrir le livre, parce que ça m'a permis de familiariser avec des notions que je ne connaissais pas vraiment. Après, c'est des livres souvent très théoriques, très illuminés, qui rejoignent beaucoup ce qu'on appelle le développement personnel, la méditation, là, dont quelqu'un comme Christophe André est actuellement un des papes. Donc, c'était un apport théorique souvent un peu fumeux, un peu qui ne m'était pas totalement nécessaire. Donc j'en ai lu quelques-uns, mais j'ai surtout, il y a des livres que j'ai beaucoup plus nourris de lecture, d'apport théorique. Là, c'était vraiment les rencontres qui m'ont guidé. Donc oui, beaucoup dans la région d'ailleurs, mais pas raison.
Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il y a eu des rencontres, mais il y a aussi des pratiques.
Oui.
C'est-à-dire que vous êtes essayé aussi à différentes...
J'ai essayé tout ce qui était possible d'essayer. C'est-à-dire à peu près tout sauf l'exorcisme, où là j'ai assisté à un exorcisme, mais j'ai pas, le démon m'ayant dédaigné, je n'avais pas
dommage.
Je le regrette aussi.
C'est triste. Oui, parce qu'en fait, là on parle des magnétiseurs et des guérisseurs, mais si on avance dans le livre, après, il est question d'exorcisme, d'esprit possessif dans certaines personnes, voilà, vous débarrasse, il est question de Reiki. Donc vous avez testé quoi ? Reiki,
voilà, esprit possessif ? Reiki, c'est ça, on m'a enlevé des esprits possessifs. Je suis remonté dans mes vies antérieures, j'ai été dans des huttes de sudation, j'ai pris de l'ayahuasca, qui là, enfin, on en parlera, qui a été l'expérience la plus choc. Ce qui aurait pu être une expérience incroyable. Donc j'ai assisté à des dialogues avec les morts, et moi-même, j'ai eu par médium interposé un dialogue d'une heure avec mon père, qui est mort en 2012, et avec qui une amie écrivain est en contact avec les esprits, m'a mis en contact. Mais à la façon dont j'en parle, vous voyez que ça n'a pas été aussi bouleversant que l'énoncé aurait pu le supposer.
En fait, il y a eu des déceptions. Alors oui, c'est le cas pour les vies antérieures, où effectivement, vous êtes retrouvé au XVIIIe siècle, mais comme vous étiez en train d'écrire un livre, en fait, une bande dessinée sur le XVIIIe
siècle. C'est moins des déceptions que le fait qu'à chaque expérience que j'ai vécue, j'avais une explication parallèle possible. Donc je ne sais pas si c'est moi qui avais raison, ou si j'ai vraiment été en contact avec des esprits, ou si j'ai... Si on prend les vies antérieures, par exemple. Donc les vies antérieures, je suis remonté dans mes vies...
Alors comment ça se passe
Alors c'est sous hypnose.
Oui.
Voilà, c'était avec la sœur d'une amie. Pareil, tout s'est fait beaucoup, les rencontres par relation. La sœur d'une amie qui est hypnothérapeute dans les Landes et qui, fort gentiment, m'a proposé de remonter dans mes vies antérieures. Donc elle m'a hypnotisé. C'est-à-dire que j'étais parfaitement conscient, mais j'étais dans un état de conscience modifié et je répondais à ses questions. Et donc, elle faisait naître, par ses interrogations, des images dans lesquelles elle me guidait et je les racontais. Et voilà, il se trouve que ces images... Alors, je me suis découvert, donc si tant est que c'était bien ma vie antérieure, un passé de mousquetaire que j'avais rarement soupçonné. Donc, apparaissaient des images du XVIIIe siècle, reconnaissable par le costume, avec des histoires un peu confuses. Alors, il y avait une histoire de duel pour une femme. À un moment, je jouais du luth, ce que mes dons pour la musique rend assez improbable. Il y avait quelques cavalcades, et à la fin, ce qui était marrant, la mort du personnage. Parce qu'elle me dit, au bout d'un moment, est-ce que tu vois la mort de ce personnage, effectivement. Et il mourait dans une... il tombait dans... entourée de personnes en noir, enfin voilà, donc je lui racontais tout ça, et elle était, elle, donc convaincue que nous étions remontés tous les deux dans les souvenirs que j'avais d'une vie antérieure. Il se trouve que la même année, on avait écrit avec un ami le scénario d'une bande dessinée dont le héros était Cagliostro, donc toute l'année on reçoit, le dessinateur dessine, et chaque fois qu'il a fini une planche, il nous l'envoie. Donc j'avais passé l'année à recevoir des images fixes, et les images que je voyais étaient fixes de la même époque, de la même période. Pour moi, il me paraît plus évident que ce que j'ai eu, c'était des souvenirs comme ça qui revenaient de ces images. Pour elle, pas du tout. Elle était convaincue que c'était ma vie antérieure. Donc, là, je ne sais pas qui a raison ou non, mais pour toutes les expériences que j'ai vécues, il y avait l'explication officielle qu'on me donnait et une autre explication plus rationnelle, qui moi, a priori, étant plutôt rationnelle, était la bonne. Il y a un autre exemple de ça, ça a été l'expérience des huttes de sudation.
Oui.
Donc les huttes de sudation sont des endroits... Où, alors là, c'est inspiré des Indiens Lakota. Parce que ce qui est très curieux, c'est de voir que très souvent, ces croyances puisent à des croyances exotiques très lointaines et pas dans un folklore qui est le nôtre. Il y a quelques druides, il y a un rapport à la culture celte, mais que j'ai moins rencontré que le rapport à des expériences sibériennes, amazoniennes, amérindiennes. Donc comme s'il fallait chercher très loin des cultures qui ont peu de rapport avec la nôtre pour après les ramener et les adapter aujourd'hui aux problématiques qui les intéressent.
Oui, et puis en plus, vous parlez du néo-chamanisme en expliquant aussi qu'on a tendance à mettre le mot chaman et chamanisme.
À peu près sur tout et n'importe quoi surtout, aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et alors la hutte de sudation, donc on s'enferme dans une cage recouverte de couverture, une structure en bois, est totalement opaque. La seule lumière qu'il y a, mais qui n'éclaire pas au sens, c'est la lumière de pierres qui sont chauffées à blanc et qu'on met. Donc ça fait un peu comme les saunas. Donc on rentre en caleçon ou en t-shirt et la température monte très très vite et il fait 70 degrés, 80 degrés. Ce sont des sessions de 10 minutes, chacune adressée aux quatre points cardinaux. Et les gens parlent. Donc, c'est-à-dire qu'au début, c'est silencieux pendant 2-3 minutes. Puis il y en a qui commencent à dire des choses. Certains voient des esprits, d'autres prient. Il y en a qui crient, une espèce de cri primal, libérateur. Enfin, et tout ça dans le noir absolu.
Et à 70 degrés.
Ouais, voilà, voire plus. Et alors, au bout de 10 minutes, on réouvre. On parle un peu de ce que les gens ont vécu et puis on referme, il y a comme ça 4 sessions. Et moi, à la moitié de la deuxième, je me sentais cuire, donc je dis au maître de cérémonie, parce qu'en même temps, il y a quelqu'un qui chante des chants Lakota, qui sont des chants très psalmodiés, très, donc avec un rythme assez envoûtant, en tapant sur un tambour. Donc tout ça crée une ambiance quand même assez particulière et assez, assez vive. Et donc là, je lui dis que je vais sortir parce que je ne vais pas supporter. Et il me dit, cette phrase, il me dit, il faudrait que tu te ressources à notre mère, la terre. Alors, je ne comprends pas très bien. Il m'explique que ça consiste à s'allonger sur le sol. Et comme on était en décembre, il faisait 4 degrés dehors. Effectivement, une fois allongé par terre à même la terre, eh ben, j'avais beaucoup moins chaud. Et donc, j'ai passé sans problème les deux étapes suivantes. Et à la fin, tout à fait convaincu, il vient me dire, tu vois, notre mère, la terre, t'a écouté. Moi, j'ai envie de lui dire, j'ai plutôt l'impression que c'est le choc thermique qui fait que... Mais là aussi, peut-être...
Vous imitez de la mauvaise raison. Volonté aussi.
Et c'est vrai. Et donc, à peu près tout, ça a été toujours partagé entre une explication qu'on me donnait, qui est celle sur laquelle eux basaient leurs croyances, et les vertus thérapeutiques de la chose. Parce qu'il y a quelque chose qui m'est impossible de nier, et ça, on en parlera pour de l'ayahuasca, c'est le fait que sur les gens dont j'étais entouré, ça marchait. C'est-à-dire qu'ils se sentaient mieux après, qu'ils parlaient. Alors, on peut dire, et c'est vrai que c'est l'effet placebo, que c'est le fait de se mettre à crier comme ça qui libère et que c'est ça qui fait du bien. Et c'est tout à fait possible aussi. Mais c'est ces cérémonies qui le créaient. Et tous les gens qui y participaient étaient convaincus qu'il y avait intervention spiritualité assez floue.
La majorité, mais pas tous. C'est ça qui est intéressant dans votre livre aussi. C'est que sur vous, ça marche rarement. Mais vous n'êtes pas le seul. C'est-à-dire que parfois aussi, au début du livre, vous assistez à... Vous êtes chez une guérisseuse, elle reçoit plusieurs patients. Il y en a qui sont soulagés, puis d'autres où ça marche pas.
Oui, puis il y a des gens qui essayent.
Et pour les huttes de sudation, je crois que c'est un dénommé Patrick, je ne sais plus.
Oui, c'est ça, qui est un champion d'aviron, qui accompagnait, qui accompagnait son épouse, qui, elle, est très, très... Enfin, un parcours assez délirant. Elle a à peu près tout essayé dans ce genre de truc. Là, elle est actuellement thérapeute à Castillon-la-Bataille. Et lui, effectivement, est resté très sceptique. Donc, il a eu chaud, il a entendu les gens crier.
Enfin, ça oui, il s'est pas, dit, bah, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'il fait chaud.
Mais il n'était pas prêt non plus. Il venait pour l'accompagner, parce que comme il l'entraîne à des compétitions d'aviron où elle s'emmerde à son sou de l'heure, il s'est dit, bon, allez, c'est à mon tour d'aller avec elle. Donc, il a joué le jeu, mais...
Donc, en fait, il y a une intentionnalité.
Ouais. Mais en même temps, quand ça ne marche pas, les gens ne continuent pas. Enfin, donc, les gens qui y sont, c'est parce qu'ils y trouvent...
En fait, les sceptiques resteront sceptiques,
je crois.
Pour le dire très vite.
Oui.
Ceux qui croient, ils croiront de plus en plus.
C'est pas un univers de révélation. C'est pas c'est pas le chemin d'Amas. C'est pas personne. Enfin, je n'ai entendu personne me dire qu'il est rentré d'un coup. Paf, ça lui a paru évident. C'est des gens qui ont une quête et ils trouvent là cette quête. Alors cette quête vient souvent, et vous l'avez dit au début. Et quand ils le racontent, on s'en rend compte de traumatismes profonds. Donc là, la thérapeute dont je vous parle a été violée par son père enfant. Plusieurs personnes qui sont en dialogue avec les esprits ont connu des deuils très très brutaux. Et même l'ami avec qui a arrangé l'entretien avec mon père est un écrivain, Martine Lecauze, dont vous avez peut-être lu. Un roman qui s'appelle Céleste, qui avait le prix Renaudot en 2001, et a perdu son mari de manière très brutale et inattendue, en 2001 aussi, d'une crise de paludisme. Et c'est peu après qu'elle s'est mise à entrer en communication avec lui, puis avec d'autres esprits, et où aujourd'hui, tout en ayant un discours parfaitement cohérent, parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés à deux ou trois près ne sont pas du tout des illuminés. Vous les écoutez, simplement, ils ont ces expériences-là de communication avec l'au-delà ou avec... Et une autre femme, c'est intéressant, parce qu'elle aussi est en communication avec les esprits, et en particulier celui de son fils. Et elle a perdu son fils à l'âge de 13 ans, donc il est monté, on ne sait plus bien pourquoi, sur un pylône, il est tombé, il s'est tué, et depuis, elle entre en communication avec lui. Elle a une espèce de dialogue presque quotidien avec lui pour des choses extrêmement triviales. Donc elle perd ses clés, et elle lui dit « Mais où sont mes clés ?» Et il lui dit « Elles sont là », raconte-t-elle. Et elle les retrouve. Et pareil, c'est sans doute fort possiblement aussi une espèce de création d'elle-même qui l'aide à surmonter ce deuil dont elle ne s'est jamais remise. Et c'est pareil, elle parle à une pierre. Donc elle a un pavé chez elle et auquel elle prête des vertus plus ou moins magiques. Et elle lui pose des questions. Et le pavé la conseille. Alors on peut dire, elle est complètement folle, mais... Le fait psychologiquement de se concentrer sur un objet quand on a quelque chose à faire met forcément les idées en place et donc elle trouve là aussi dans cette confrontation, qui est peut-être aussi une confrontation avec elle-même, une aide réelle. Donc entre son pavé et son fils, ben voilà, sa vie est réglée comme ça, mais elle est parfaitement intégrée, elle a un métier. C'est pas une allumée qui sort dans la rue avec un entonnoir sur la tête. Juste, elle a ses pratiques qui touchent au surnaturel et qui l'aident.
Effectivement, après, on se pose toujours la question, puisqu'il y a souvent un événement traumatique, ou en tout cas une souffrance derrière. Est-ce que c'est justement parce que ce sont des personnes qui sont en situation de souffrance, ou parce que cette souffrance donne une sorte de sensibilité, peut-être aussi ouais. C'est-à-dire que c'est soit peut-être effet, consolateur un petit peu de quelque chose qui remplit notre vie, ou peut-être effectivement une expérience qui peut être... Est-ce que vous auriez une réponse, vous, à ça?
Non, j'en ai pas, parce que je ne peux juger que par rapport à mon vécu à moi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les gens qui étaient en face de moi avaient développé les deux. Donc on peut les écouter parler d'un événement dramatique et se dire ça vient de là, mais effectivement, ils affirment avoir une sensibilité qui leur permet de capter et d'avoir des liens, des conversations avec
leur mort, souvent. C'est qu'ils sont nombreux à dire « je ne suis pas unique, cette réalité, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde... » Tout le monde, on l'entend souvent, ça.
Tout le monde a de l'énergie qui traverse le corps.
Enfin,
la plupart sont pas dans la défense d'une particularité qui ne serait qu'à eux. Au contraire, ils pensent qu'ils ont fait un chemin vers quelque chose, mais qu'on a tous le don de guérir, par exemple. Aucun guérisseur ne m'a dit « Oui, moi, j'ai ce don, et puis je suis le seul de la région. » Non, tous vous disent « On l'a tous en nous, il suffit de le laisser sortir, de l'exprimer, d'y croire et de... Donc, ils sont pas dans l'égoïsme ni dans l'omniscience. Et ils se méfient énormément. En fait, une des clés aussi de leur comportement à tous, c'est la méfiance absolue du mental. Alors, il y a un grand combat entre le mental et le ressenti. Donc, le mental, c'est qu'il y a un combat limite, parce que ça veut dire, en gros, que quoi qu'on ressente, aussi crétin soit-on, la réflexion n'a plus rien à voir. Et moi, c'est une idée à laquelle j'adhère pas totalement, mais c'est ça. Donc, réfléchir est mauvais, ce qu'il faut, c'est sentir. Donc, ils s'abandonnent à un ressenti et c'est lui qui mène leur vie. Et tout discours intellectuel se heurte à leur ressenti et dévalue. Et pour eux, le grand ennemi, c'est ça. Les deux clés majeures, c'est ressentir et le fameux lâcher prise qui consiste à s'abandonner à ce qu'on ressent au lieu d'essayer de le rationaliser, de comprendre, d'expliquer. Ressentez les choses et laissez-vous porter et on accède à des dimensions autres.
Oui, je pense que c'est aussi une façon peut-être pour eux de lâcher leur ego et de mettre en avant aussi une empathie, qui est un mot qui revient souvent aussi.
Et qui est très vrai. Et c'est vrai que tous les gens que j'ai rencontrés étaient extrêmement bienveillants. C'est-à-dire qu'ils étaient préoccupés par le destin des autres, n'avaient qu'une envie, c'est d'améliorer le monde, étaient souvent liés au mouvement... écolo, sauvons la planète, enfin, donc sont portés quand même par quelque chose qui n'a rien à voir, heureusement, avec l'espèce de capitalisme odieux qu'on rencontre et de volonté d'expansion, de conquête économique. Donc ils sont vraiment dans autre chose et la plupart d'ailleurs vivent assez chichement de leurs dons et exploitent très peu les autres. L'une des limites de cette bienveillance, c'est que très souvent, le raisonnement de base, c'est que pour que le monde aille mieux, il faut d'abord que moi j'aille mieux. Et il y en a qui s'arrêtent un peu à cet égoïsme, considérant qu'à partir du moment où ils vont mieux, le monde va forcément aller mieux, donc c'est pas la peine de continuer. Mais cette réserve mise à part, c'était généralement des ambiances extrêmement ouvertes, sympathiques et en fait pour aider les autres.
Ce qui peut être une explication du succès de certaines de ces pratiques, parce qu'effectivement, l'empathie, la confiance, peut-être créer quelque chose que l'on ne retrouve pas avec le corps médical, ou qui est plutôt anxiogène. Alors, ça pourrait être aussi peut-être une explication, simplement, quand on va voir ces personnes, on se sent aimé, on se sent en confiance. Et on accède peut-être aussi à d'autres...
Tous sont très durs avec la médecine officielle et son côté extrêmement technicien. Aujourd'hui, on a des spécialistes de l'orteil gauche et donc qui regardent ça en pur. Eux considèrent les personnes comme une globalité, considèrent que la santé est beaucoup liée à la psychologie et que tout ça est un tout et qu'effectivement, il y a autre chose que la simple technicité.
Est-ce qu'il y a une difficulté pour certaines de ces personnes à tarifer leurs séances ?
Oui, c'est pas toujours évident. En gros, ils ont des tarifs qui sont les tarifs d'un spécialiste, donc entre 50 et 80 euros. C'est plus cher à Paris qu'en province, comme beaucoup de choses. Oui. Mais non, j'ai peu rencontré. Alors, du moins de façon indirecte. Donc la personne dont je vous parlais, là, qui avait son pavé et qui parlait à son fils mort, a été un moment embringué par un type qui a créé un mouvement plus ou moins sectaire, qui vit en Afrique, qui s'appelle JET, J-E-T, les initiales, je ne sais plus très bien quoi c'est, et lui qui a gagné un argent fou, tellement qu'il a été obligé de s'expatrier avec son pognon, et qui vend des baguettes magiques, qui fait des séances d'initiation très très chères.
C'est une dérive sectaire.
Oui, complètement. Et où c'est à deux doigts de l'escroquerie, il est d'ailleurs plus ou moins... poursuivi pour ça et ne peut pas rentrer en France. Mais des gens que moi j'ai rencontrés n'ont tous été des pratiquants plutôt honnêtes, souvent bénévoles, et qui, quand ils en faisaient un métier, le faisaient à des tarifs tout à fait acceptables.
Alors revenons justement sur l'expérience qui vous a peut-être le plus marqué, l'ayahuasca.
Oui, qui a été la plus forte.
Expliquez-nous ce qu'est l'ayahuasca.
L'ayahuasca est un mélange de deux plantes amazoniennes qui donnent un liquide qui a été analysé, on sait parfaitement de quelle molécule c'est composé, qui est un psychotrope extrêmement puissant et qui est utilisé, mais depuis des siècles, voire des millénaires, par les Indiens d'Amérique du Sud. Ça s'est répandu un peu, parce que là, il y a eu exploitation aussi. En fait, c'est en Amazonie, Brésil et beaucoup le Pérou. Et au Pérou, c'est vraiment l'ayahuasca un élément de la culture nationale important. On peut le prendre dans les hôpitaux, alors qu'en France, c'est catalogué comme stupéfiant, donc ça reste interdit. Alors, il en rentre un peu, parce que les gens qui pratiquent sont assez rares, c'est pas un danger, donc tout ça rentre sans problème. Et moi, j'ai fait cette expérience à Paris. Donc, on le boit, ça vous plonge dans un état de conscience modifié très, très fort, et... D'après la théorie, c'est un voyage que les esprits vous emmènent faire à travers votre psychisme. Alors, ça a démarré par des visions magiques. Enfin, comme vous savez, je ne sais pas si vous avez lu Flash ou Le Grand Voyage, enfin, qui est un livre, Les Mémoires d'un toxico au LSD, qui a été un énorme best-seller dans les années 70. Et voilà, c'est ce qui est raconté. Donc, c'est
Castaneda
là. Castaneda aussi, voilà, bien sûr. Ouais. Et où Artaud avec le peyote, c'est des visions cosmiques, on est là, on nage dans les étoiles, il y a des couleurs merveilleuses, c'est assez génial. Et puis après, ça se gâte un peu, parce que ça dépend des psychismes, mais le mien devait avoir quand même quelques traces moins souriantes. Et on est plongé dans des univers d'un coup très noirs, très... Alors, j'ai vu des choses, c'est étrange. Hitler est apparu à un moment... Pourquoi ? Je ne sais pas. À un moment, j'ai eu le sentiment très net, alors que c'est marrant, parce que pour moi, la notion ne veut pas dire grand-chose, que des démons se battaient pour moi. Et donc, c'était très sombre, assez angoissant. Là, c'est la période où on vomit tout ce qu'on peut, parce que c'est quand même la thérapie par le vomi, beaucoup. Donc, on a tous notre seau à côté. Et puis, là, il y a un moment, au moment des démons, j'avais l'impression... d'avoir une barre de fer plantée dans le dos que je ne pouvais plus bouger. Enfin, c'était moins rigolo que mon voyage dans les étoiles. Et puis après, ça revient, ça alterne. Et ça m'a duré quand même pendant 10 heures d'affilée. Donc on a pris à 22 heures. Et moi, je suis sorti des brumes. Mes camarades, vers 8 heures du matin, moi, j'ai traîné quand même jusqu'à 10 heures, 11 heures. Enfin, ça a été une expérience assez incroyable. Et donc, quand on en sort... Alors, il y avait une chamane, une indienne brésilienne qui était là. Son mari, lui, qui était à la RATP, qui est un secteur moins porté sur le magique, avait cette espèce d'enthousiasme des nouveaux convertis, donc était beaucoup plus carré, beaucoup plus, alors qu'elle était beaucoup plus dans l'accompagnement. Et quand on en sort, donc on raconte ce qu'on a vu, elle explique. Et voilà, c'était vraiment un voyage assez étonnant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que alors moi, bon, je l'ai fait une fois, et puis après, c'était... Et j'ai une amie qui, elle, avait eu un gros problème, quelque chose d'assez lourd de son enfance, dont 15 ans d'analyse ne l'avait absolument pas soigné. Et là, en 3 séances d'ayahuasca, elle a évacué le truc. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est de l'autosuggestion, ce qu'elle admet tout à fait. Mais enfin, le fait est là, et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas nier. Elle a fait 3 séances d'ayahuasca, et depuis, ce problème qui pesait sur elle depuis son adolescence ne l'embête plus. Donc ça a été une espèce de guérison. Alors, il y a des gens qui prennent ça, mais qui ont fait des voyages, mais par dizaines, par centaines. Enfin, c'est une espèce de thérapie sur eux-mêmes. Il y a au Pérou des centres qui, eux, tombent un peu quand même, pas forcément dans le charlatanisme, mais dans l'exploitation financière d'Européens en quête de sensations spirituelles, qui se sont ouverts. Le cinéaste Yann Kounen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Qui a écrit un livre, d'ailleurs.
Oui, a écrit un livre dessus, a fait un documentaire là-dessus qui s'appelle D'autres mondes, et lui va tous les étés, pendant 2 mois, boire de l'ayahuasca au Pérou. Et c'est une expérience assez violente. Donc, il passe les nuits, il en prend. Après, il vomit tout ce qu'il peut. Mais il dit que c'est une expérience qui, pour lui, a été était extrêmement bénéfique et extrêmement... c'est quelque chose de séculaire. Enfin, c'est pas trois types qui ont trouvé ça comme ça récemment. Ça fait des années et des années que les Indiens sud-américains utilisent ça pour voyager dans leur... Le chamanisme brésilien, avec d'autres produits, sibériens, relève du même genre de vision. Et il y a des initiés, donc des guérisseurs, que maintenant ça s'appelle chaman, parce que le terme est plus couru, mais le terme réel est curanderos, qui veut dire guérisseur en espagnol. Et donc, ça fait des années que dans la forêt... amazonienne, les gens gagnent ça. Et vous savez que la forêt amazonienne est une mine de plantes dont on ne sait pas bien à quoi elles servent, mais que tous les groupes pharmaceutiques envoient des gens en permanence pour essayer de comprendre les secrets des plantes amazoniennes et la manière dont les Indiens s'en servent, puisqu'ils s'en servent depuis des centaines d'années. Et l'ayahuasca, donc, est une de ces plantes et commence à se répandre discrètement en France, où on en trouve, il y a des cérémonies...
J'ai des demandes aussi de livres de clients sur l'ayahuasca depuis quelques années.
Qui fascine pas mal. Ouais. Mais la violence quand même de la thérapie, si vous voulez, c'est pas juste un pétard sympa où on a des visions. C'est beaucoup plus rude, donc les volontaires sont moins nombreux.
Oui. La troisième grande partie du livre, là, vous intéressez beaucoup plus à la divination. Donc là, vous allez voir des astrologues, numérologues, voyants. Alors, on a l'impression, en vous lisant, que ça vous plaît moins, ça vous...
C'est quelque chose
que
de...
Vous avez affaire à des personnes plus rationnelles.
Oui. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai pas rencontré du tout... le voyant classique qui est dans la prédiction, genre Madame Irma, demain il vous arrivera ci ou ça. Tous les gens que j'ai rencontrés définissent, que ce soit la numérologie, donc qui consiste à prendre le nom, le prénom, et à chaque lettre est associé un numéro, et de là à en tirer des chemins de vie, comme ils disent, très précis, ou l'astrologie qui fait un peu la même chose, mais avec les astres. Tous les gens que j'ai vus ne prétendaient nullement détenir la vérité, et étaient même... plutôt en retrait par rapport à leur clientèle sur le côté prédictif. Ils disent, nous, on détermine avec vous, en croyant que les astres ou les chiffres le font, un profil psychologique auquel qui fait qu'on vous conseille de faire ça ou ça plus tôt. Donc si vous arrivez avec un projet en disant voilà, demain je veux tout larguer et ouvrir une boulangerie, ok, il va regarder ce profil psychologique, il va voir que vous êtes finalement peu entreprenant, que vous êtes étourdi, que, ou au contraire que vous êtes rigoureux, que vous êtes, et de là vous dire peut-être c'est une bonne idée, peut-être c'est pas une bonne idée, mais aucun ne va vous dire voilà, ben oui, il faut changer de travail dans 3 semaines et ce qui est la voyance plus classique et plus malhonnête que j'ai vue s'exercer donc, au salon de la voyance là, à Levallois-Perret, où là, il y avait des petites cabanes comme ça, les unes à côté des autres, 70 euros le quart d'heure quand même, et où on entendait les gens dire à peu près la même chose en regardant soit les cartes, soit les lignes de la main, soit oui, elle vous aime, oui. Et certains avouaient que, voilà, quand ils voyaient rien, ben, ils disaient ce que les personnes attendaient. Mais l'expérience, pas la plus spectaculaire, mais la plus troublante que j'ai eue, ça a quand même été avec une voyante, qui est pareil, une amie écrivain, qui, elle ne veut pas donner son nom, donc je ne le donne pas, mais qui a, voilà, qui est édité régulièrement, qui a sorti un roman encore il n'y a pas très longtemps, et qui était prof de français, et qui a senti un jour un don, comme ça, de vision, et qui s'est mis à donner des consultations sur Internet, ce qui est quand même très étonnant, c'est que là, pour que ça marche, il n'y a pas besoin d'être présent, ça marche avec des photos, ça marche à... Et donc, j'ai discuté avec elle, elle m'a raconté son histoire et tout, et après, j'ai demandé si je pouvais la tester, donc sans la prendre en traître, et j'ai donné la photo d'une amie dont je connais bien la vie, et voilà, ou plutôt, je l'ai même envoyé par Internet, parce que je n'en avais pas sur moi, et je lui ai envoyé la photo par Internet, et le lendemain, elle m'a rappelé, elle avait trouvé quand même un nombre de choses très étonnantes, sur, alors pas très précises, mais elle avait vu de l'excellence sportive, elle avait vu un rapport à l'image, elle fait des documentaires télé, elle a été championne de planche à voile, enfin, elle a trouvé un problème dans l'enfance qui, effectivement, a été... Et alors, après, j'ai donné la même photo, il fallait la photo et le prénom, donc j'ai donné la même chose à des amis qui me disaient, mais il y a tout sur Facebook, sur Internet, et donc j'ai demandé à des gens qui sont documentalistes, donc qui sont habitués aussi à les chercher sur les réseaux sociaux, et ils ont trouvé quand même beaucoup moins de choses que la voyante. Donc voilà, je ne sais pas si elle a un truc, si c'est une enquêtrice hors pair, si elle a vu vraiment des choses, mais en tout cas, et ça, j'ai, à l'inverse de la plupart des autres où j'avais une explication parallèle, là, j'en ai pas.
Est-ce qu'il y a des pratiques occultes dont vous n'avez pas vu les représentants et que vous auriez aimé rencontrer, parce qu'effectivement, vous rencontrez
beaucoup de personnes. Il y en a forcément, oui.
Mais est-ce que vous vous dites, tiens, c'est dommage, parce qu'il n'est pas question de cartomancie, par exemple ?
Non, c'est vrai. Vous savez, au bout d'un moment...
Ou de lithothérapie.
Ça faisait 2 ans, j'avais l'impression d'avoir un peu compris le phénomène, donc j'aurais pu rajouter des anecdotes, des pratiques, mais globalement. Mais c'est vrai que c'est un choix un petit peu aléatoire et qui n'a pas été guidé par un plan. Enfin, si je voulais voir dans certains domaines. Mais c'est vrai que, par exemple, comment on appelle ça cette idée que nos ancêtres nous influencent, mais pas de manière purement, qu'il y a transmission de.
La psychogénéalogie.
Voilà. Oui. Ça, effectivement, j'en ai rencontré une. Et puis après, bon, j'ai pas envie de creuser parce qu'aussi, au bout d'un moment, j'avais... Oui. Donc oui, bien sûr.
Le Reiki aussi, vous avez...
Le Reiki, j'ai essayé. Mais le Reiki, ce qui est intéressant, c'est son côté très mode. Donc le Reiki, c'est une pratique énergétique qui vient du Japon.
Du Japon.
Et voilà, on vous passe les mains sur le corps et on repère des failles énergétiques et on les comble. Et c'est vrai que j'ai fait une séance qui a duré... 1 heure, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus court et qu'en sortant, j'étais bien comme après un massage. Mais rien de plus non plus. Mais ça, alors le Reiki est quelque chose, on se forme très très rapidement, il suffit de 3 week-ends et c'est bon, on devient maître Reiki. Donc comme c'est un peu à la mode, ça a fleuri. Mmh. Et une des idées de base de la plupart de ces théories est que le monde en fait est énergie et que tout ce qui nous entoure est énergie et que c'est la manière de recevoir, de rendre, de manipuler ces énergies qui fait que toutes ces thérapies fonctionnent.
Qu'est-ce que cette enquête et qu'est-ce que ce travail vous aura apporté ? Est-ce que vous en sortez un petit peu chamboulé dans vos conceptions ou...
Chamboulé, le terme est peut-être excessif, mais comme la plupart des enquêtes que je fais, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller rencontrer des gens qui ne vivent pas comme moi ou qui ont des pratiques qui ne sont pas les miennes. Donc effectivement, je suis toujours plutôt rationnel, mais je ne sais pas comment dire, j'ai pas beaucoup de certitudes. Et là, après celle-là, j'en ai encore moins, parce que je me dis, voilà, c'est peut-être eux qui ont raison, j'en sais rien dans le fond, je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas, je veux dire, je ne le ressens pas en moi. Mais est-ce qu'il y a un monde extérieur? Est-ce qu'on est guidé par des choses? Est-ce que ma vie, enfin, la mienne, qui est plutôt heureuse, c'est parce que... en fait, j'ai été odieux dans des vies antérieures, donc c'est une compensation. Ou est-ce que en fait, ouais, le fait que
j'étais un mousquetaire,
parfait salopard au XVIIIe siècle fait qu'aujourd'hui ça se passe plutôt bien. Pourquoi pas ? Dire ça ouvre des visions du monde. Il y en a certaines qui me paraissent un peu délirantes et mises en avant par des gens
par exemple,
un peu barrés.
Lesquelles vous paraissent ?
Non, c'est moins des théories que des gens dont le côté paumé paraissait évident et qui après essayaient tout et n'importe quoi. Vous dites la hutte de sudation, est-ce que c'est parce qu'il fait froid par terre ou est-ce que vraiment c'est la terre qui m'a écouté ? Dans le fond, j'en sais rien. Et c'est marrant, ce que je vais dire est un peu provocateur et va peut-être choquer, mais... J'ai été élevé dans un milieu chrétien par des gens parfaitement rationnels et qui, malgré tout, tous les dimanches, allaient manger un morceau de pain en pensant que c'était un bout de quelqu'un mort il y a 2000 ans. Donc il y avait une rupture comme ça de leur rationalisme d'un coup. Et voilà, est-ce qu'ils avaient raison, est-ce qu'ils n'avaient pas raison ?
C'est ça.
J'en sais rien. Donc c'est vrai que c'est le genre d'expérience qui ouvre, enfin qui efface les certitudes plus qu'elle ne les renforce. Mais j'en suis pas sorti en ne me demandant. Voilà, ma vie n'a pas changé après. Je sais que je suis plus ouvert à écouter des gens qui ont des visions du monde un peu lointaines de la mienne.
Vous avez gardé certains contacts avec certaines personnes ?
Oui, bien sûr, parce que c'était la plupart des gens très sympas et avec
alors,
qui.
Alors peut-être qu'à l'avenir, vous allez renouveler une expérience.
C'est possible, pourquoi pas. Mais là, typiquement, par exemple, mais là aussi, c'est symptomatique. Donc, j'avais rencontré des hypnothérapeutes qui étaient plutôt sympas. Et mon fils passait pour la cinquième fois, la semaine dernière, le permis de conduire.
D'accord.
Donc, comme on supposait que c'était peut-être dû à un stress qu'il avait du mal à gérer, je lui ai dit, écoute, va voir un hypnothérapeute. De toute façon, si ça ne fait pas bien, ça ne fera pas mal.
Vous avez un bon carnet d'adresse.
Donc, voilà. Donc, il est allé voir, effectivement, quelqu'un à Bec qui lui a fait faire des exercices. Il a eu son permis. Peut-être qu'il n'y serait pas allé, il l'aurait eu quand même. Et peut-être qu'il ne l'aurait pas eu. Et voilà, donc, effectivement, on a intégré en se disant, dans le fond, pourquoi pas.
Tant que ça fonctionne et tant qu'il y a du mieux-être, à la limite, c'est vrai qu'on peut se dire aussi, peu importe l'explication.
Voilà, à condition de ne pas tomber dans des... Mais effectivement, pourquoi pas.
Oui, d'accord.
Et dans son cas, il a eu le permis. Et je le féliciterai de votre part.
Félicitations. Merci à vous.
Merci.